Bienvenue dans une nouvelle interview de 50 femmes inspirantes. Et aujourd'hui, on accueille Alizée, qui n'est pas n'importe quelle femme inspirante, puisque c'est celle avec qui j'ai passé toute l'année 2021, quand même, en collaboration très, très proche. Donc, on va détailler un petit peu plus tout ça tout à l'heure. Bonjour Alizée.
Salut Lucie. Et merci pour ton invitation à faire partie de ces 50 femmes inspirantes. Ça me permet de travailler sur le fameux syndrome de l'imposteur et de se dire oui, moi aussi, je suis une femme inspirante. Merci beaucoup.
Oui, parce qu'on a fait pas mal de choses ensemble, mais on n'a pas finalement parlé de ton parcours encore sur ma chaîne. Donc, tu avais vraiment une place à prendre dans cette série de 50 interviews. Alors, est-ce qu'on peut démarrer un petit peu par ton parcours avant d'être entrepreneur, c'est quoi ton petit chemin? Où est-ce que tu as grandi? Quelles ont été tes études et puis tes premières expériences professionnelles?
Ok, je vais essayer de faire court. Normalement, quand on dit ça, ça craint. Mais je vais essayer de faire court. Dans le parcours professionnel, moi, j'ai grandi dans les Landes. Mes parents habitaient et habitent toujours au Segor, donc une région assez agréable. Donc, j'ai grandi là. Pour les études, ensuite, je suis partie sur Bayonne, sur Pau, puis sur Toulouse. J'ai fait des études de commerce international, des études de logistique et la fin de mon parcours logistique était en apprentissage et donc j'ai fait une alternance chez Latécoère qui est un fournisseur d'aérostructures pour Airbus et d'autres, pour Boeing aussi, pour d'autres avionneurs. Et donc, dans cette expérience, j'ai découvert le Lean Management que je ne connaissais pas du tout, qui sont des principes inspirés du modèle de Toyota. Je me suis passionnée pour ça. J'ai adoré découvrir tous ces éléments autour de la philosophie Lean et de toute cette approche. Et je me suis très vite engouffrée là-dedans. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus chez Latécoère, que ce soit sur le milieu de production, donc améliorer les postes de travail, améliorer les flux de pièces, de matières, d'approvisionnement, pour réduire au maximum les gaspillages. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de l'approche Lean. Optimiser la valeur ajoutée pour le client et réduire les gaspillages qui ne représentent pas de valeur pour le client. En fait, il se trouve que c'était un joli hasard, même si on est convaincus toutes les deux que les hasards n'existent pas, mais en tout cas, c'en était un, puisque j'avais pas forcément prévu de découvrir ce sujet-là. Je l'ai découvert un peu par inadvertance, parce qu'il y avait un besoin de ressources dans cette équipe et qu'à l'époque, mon manager n'était pas très intéressé par mon profil, parce que lui, il était très... transactions, SAP, donc pour ceux à qui ça parle, c'est on fait des requêtes sur des logiciels informatiques pour faire sortir tout un tas de tendances et de statistiques. C'est pas du tout ma zone de génie, absolument pas. Lui, c'était la sienne, donc on se comprenait pas vraiment. Donc en fait, il s'est un peu débarrassé de moi en se disant bon, je vais pas savoir trop quoi en faire pendant 2 ans. Donc, je vais la filer au service d'à côté qui était l'équipe Lean qui venait de se créer puisque le sujet était tout nouveau dans l'entreprise. Et donc j'étais ravie de les rejoindre parce que c'était beaucoup plus humain, beaucoup plus concret. On allait dans l'atelier, on discutait avec les gens, on faisait de la formation, de la communication, plein de choses. Et puis en fait, on a tous grandi ensemble sur le Lean puisque eux ne connaissaient pas non plus tout. On avait Boeing qui nous aidait beaucoup, qui nous transférait beaucoup de choses. Et puis, on a grandi ensemble, on a appris ensemble sur le Lean. Là où c'est un joli hasard, c'est qu'en fait, c'est une compétence qui, à l'époque, aujourd'hui encore, mais à l'époque, était très demandée et recherchée. Et surtout, la plupart des gens qui avaient ces compétences-là étaient plutôt, comme on les appelait dans le secteur, des vieux moustachus, donc des gens qui avaient beaucoup d'expérience, qui étaient plutôt seniors et qui, du coup, facturaient très, très cher leurs interventions en entreprise. Donc, moi, sortie d'études avec 3 ans d'apprentissage où je m'étais formée sur le sujet, où j'avais mis en place des choses concrètes, ben, en fait, j'étais un peu du pain béni pour les recruteurs puisque je n'avais pas de grosses prétentions salariales en étant jeune diplômée et en même temps, une expérience significative sur le sujet. Donc, ça m'a permis ensuite de rejoindre un groupe qui s'appelle Molnlycke Healthcare, qui est un groupe suédois. Donc, ça s'écrit Molnlycke, c'est suédois, c'est très Ikea. et donc, c'est un groupe qui fait des kits pour le bloc opératoire. Donc, il fabrique un kit à la demande du chirurgien, vraiment sur mesure pour chaque chirurgien. Ce kit est stérilisé puis envoyé directement dans les hôpitaux. Et donc là, j'ai été embauchée pour faire du Lean sur la partie logistique, sur la partie production et aussi sur tous les métiers autour, la comptabilité, la gestion des stocks, etc. Et puis, à un moment donné, dans cette expérience-là, pour être complètement transparente sur les sujets, j'avais une période d'essai qui était renouvelable une fois. Donc, je crois que j'avais 2 ou 3 mois de période d'essai qui était renouvelable une fois, qui s'était renouvelée naturellement. Et en fait, on arrivait au bout de cette période d'essai. Je crois que c'est ça. Ça faisait 6 mois que j'étais dans la boîte. Et je me suis dit, bon, ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'on va continuer et qu'ils ne vont pas me jeter au dernier jour de ma période d'essai. Mais en même temps, j'en suis pas sûre, j'ai pas de confirmation. Donc, plutôt que d'attendre de voir, bah, je vais être proactive et puis je vais postuler sur quelques jobs et au moins me sentir actrice de mon parcours. Et en fait, le jour où mon chef m'a fait venir dans son bureau pour me dire que bah, la période d'essai, voilà, c'était derrière nous, qu'on avançait ensemble en CDI maintenant, je venais de recevoir un entretien, enfin une demande d'entretien pour aller postuler chez Airbus. Donc, bah, je suis quand même allée voir chez Airbus. J'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe Airbus. Donc, j'ai quitté Mölnlycke, qui était une très, très jolie boîte où j'ai appris plein de choses en 9 mois, mais j'ai appris vraiment beaucoup, notamment au niveau du management. Et j'ai rejoint Airbus, qui était quand même un peu le Graal vu depuis la petite fenêtre de la TECOR. On se dit quand même, un jour travailler chez Airbus, ce serait incroyable. Et donc, cette chose incroyable m'est arrivée. J'ai été embauchée chez Airbus. J'ai passé 6 ans chez Airbus et j'ai eu 4 ou 5 jobs différents. J'ai commencé sur du lean au bureau d'études, donc accompagner les ingénieurs sur cette même démarche, réduction des gaspillages, focus sur la valeur ajoutée pour le client. J'ai aussi pas mal fait de manière un petit peu en sous-marin. J'organisais des événements, j'organisais les repas de fin d'année de l'ensemble des managers, j'organisais les team building, donc les escapades d'une journée ou deux pour aller travailler un peu à l'extérieur de l'entreprise. Et j'adorais ça. Du coup, suite à ça, j'ai voulu. Alors, j'avais tout cet aspect un peu transverse qui me plaisait vachement et que j'avais envie de développer. Et en même temps, j'avais un peu le syndrome. Je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur, en tout cas, de se dire ouais, quand tu fais ça, tu fais pas des avions. Et mes collègues étaient assez forts pour me dire ouais, mais nous, on fait des avions. Donc, sous-entendu, pas toi avec ton rôle transverse.
Avec ce
Et
rôle
donc.
des ingénieurs et des non-ingénieurs, non, qui sont
Alors, il y a ingénieurs et non-ingénieurs, mais il y a surtout les personnes qui travaillent sur le produit et celles qui travaillent un peu plus loin du produit. Et donc, que ce soit en production, et parfois, enfin, ça peut être des techniciens, des CAD, des non-CAD, c'est pas trop le. Mais c'est vraiment. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres industries, mais en tout cas, voilà, chez Airbus, il y avait quand même ce truc régulier de me dire oui, mais nous, on fait des avions. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de faire des avions. Donc, j'ai demandé à évoluer sur un poste un peu plus technique. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un sujet qui était sur le développement du blindage de l'A400M, donc un blindage qu'on mettait à l'intérieur de l'avion pour protéger les pilotes, puisque l'A400M est un avion militaire. Il se trouve que je me suis retrouvée à coordonner ce projet. Donc, j'avais des ingénieurs, un fournisseur. Au niveau ingénieur, il y avait du design et du stress. Donc, c'est deux types d'ingénierie différents. Et donc, il fallait coordonner tout ce monde pour arriver à livrer le produit à notre client. Et il se trouve que quand j'ai pris le job, c'est tombé à peu près en parallèle des attentats de Charlie Hebdo. Et donc, il y a eu un gros, gros coup de pression de la part des clients, qui sont les militaires, hein, qui nous ont dit, là maintenant, faut arrêter de rigoler. On a vraiment, vraiment besoin d'aller sur le terrain avec ce blindage. Donc, il nous faut quelque chose tout de suite. Donc, ça a été 9 mois. J'ai passé à nouveau 9 mois sur ce poste. Ça a été 9 mois vraiment durs où on avait beaucoup, beaucoup de pression. On avait des relances en direct de la part du PDG, ce qui est juste improbable quand on travaille chez Airbus sur un projet comme ça qui est un peu voilà, anecdotique par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Donc, ça mettait beaucoup, beaucoup de pression sur tout le monde. Il y a eu aussi un problème avec l'A400M à ce moment-là. Il y avait eu un crash d'A400M dans des essais en vol assez vite. Donc, ça mettait beaucoup, beaucoup de pression sur ce sujet. Et on était tous un peu en stress. Voilà. Donc, ça a été une période dense où j'ai fini en prenant 6 semaines de congé et où j'ai dit au retour de mes 6 semaines de congé, je ne veux pas reprendre ce poste parce que c'est beaucoup trop émotionnellement et ça me mettait beaucoup trop dans le rouge. Et en fait, une petite anecdote professionnelle, c'est qu'un de mes managers m'a dit un jour, les meilleurs jobs que j'ai eus, je me les suis créés. Et c'est vraiment une phrase qui ne me quitte plus depuis ce jour-là. Et en fait, le job que j'ai eu après, je l'ai créé. Je suis sous les conseils de ce manager, je suis allée voir son chef. Et je lui ai expliqué, bah voilà ce que je veux faire. Moi, j'ai envie de faire des événements, j'ai envie d'accompagner les gens qui ont des idées pour les développer, pour les vendre, pour trouver du financement, pour trouver un moyen de les réaliser. J'ai envie d'aider des gens qui n'ont peut-être pas encore formalisé d'idées à les sortir, à exprimer ces idées-là. Et donc, je me suis retrouvée avec un poste un peu sur mesure dans ce département. Donc, c'est un département toujours au bureau d'études où on était à peu près 1000 collaborateurs. Et dans ce département, bah, j'organisais tous les événements, je faisais de la com, du community management sur notre réseau social d'entreprise, et puis beaucoup d'événements autour de l'innovation. On a fait des hackathons, on a fait des campagnes d'idées, on a fait tout un tas de trucs très très cool pour bouger et stimuler l'innovation dans les équipes. Et puis, on va arriver vers le bout de l'expérience Airbus. Donc, par ces hackathons, il y en a un que j'ai organisé avec les usines de Nantes et Saint-Nazaire. Et il se trouve qu'on m'a proposé un job sur l'usine de Saint-Nazaire à l'occasion plus ou moins de ce hackathon. Voilà, il y avait beaucoup de liens à ce moment-là. Et donc, le job qu'on m'a proposé, c'est d'être. Donc, le terme chez Airbus, c'est executive assistant. Donc, ça veut dire en fait le bras droit du chef. Et donc j'étais le bras droit du responsable de l'aérostructure de l'A350, qui était enfin, qui est le programme, le dernier programme d'Airbus. Et donc j'ai rejoint ce manager pour l'accompagner, notamment sur le fait d'aller vers une entreprise plus libérée. On aura peut-être l'occasion d'en reparler et donc de changer un petit peu les manières de manager, le mode de management qui était utilisé dans son équipe pour aller vers quelque chose de plus horizontal, plus de responsabilisation et plus d'expression finalement des talents uniques de chacune des personnes dans l'équipe. C'est une démarche qui était très avancée sur Saint-Nazaire et portée par le patron de l'usine qui s'appelle Gérald Lignon, qui est parti à la retraite maintenant et qui est quelqu'un qui a beaucoup inspiré mon parcours professionnel. C'est un mentor pour moi. Et j'étais aussi, quand j'ai pris ce job à Saint-Nazaire, il y avait à la fois le challenge d'aller aider cette équipe à mettre en œuvre des concepts auxquels je crois très très fort, et puis aussi de pouvoir évoluer dans l'écosystème de ce Gérard Lignon et de pouvoir me nourrir aussi bah, de sa manière de manager, de son leadership, de sa posture, tout ça. Et du coup, j'ai passé 1 an et demi là-bas, et après, j'ai pris mon envol.
Donc, cet envol, est-ce que c'est ces expériences autour du hackathon, de l'animation, qui t'ont donné envie de te former? Tu t'es formée au coaching, c'était au moment où tu étais encore salariée?
Alors oui, je me suis formée au coaching quand j'étais encore salariée. J'ai démarré ma formation, j'étais à Toulouse et puis j'ai changé de job pour aller à Saint-Nazaire et du coup j'ai fini ma formation depuis Saint-Nazaire. C'est une formation que j'ai faite par moi-même, qui n'était pas financée par l'entreprise. Il y avait une volonté de ma part aussi de le faire comme ça, qui était que bah, cette formation, elle était pour moi et je voulais qu'elle m'appartienne et que je me sente pas redevable envers l'entreprise par rapport à ça. Donc, j'ai pris des congés et j'ai payé ma formation et je me suis formée en parallèle de mon job. À ce moment-là, je pense que j'avais déjà le souhait de me lancer à mon compte à un moment donné, mais c'était moins fort. Enfin, c'était pas forcément très très marqué à ce moment-là. Je pense qu'il y avait vraiment une chose qui était sûre, c'est que j'avais envie d'être coach. Après, je savais pas où, je savais pas comment, avec qui, mais j'avais envie d'être coach. Et donc, j'avais envie d'aller vers la formation et de me sentir. Je pense qu'il y a la notion de se sentir légitime parce qu'on est reconnu par un diplôme et tout ça, mais c'était surtout le fait de me dire, quand je suis en échange avec quelqu'un, j'ai pas forcément les clés pour pas lui faire mal, en fait. Et j'avais besoin de me rassurer sur les méthodes, sur les approches pour me dire. En mettant toute mon intention pour aider quelqu'un, je voudrais pas faire mal et je voudrais pas bah, tomber à côté finalement. Donc me former, c'était vraiment dans cette démarche-là, me dire je me sens outillée et sécurisée dans ma pratique pour pouvoir accompagner des gens de la meilleure manière possible.
Ouais, super. Ça, je pense que ça répond à une question que moi j'ai assez souvent des coachs qui veulent se lancer et qui me demandent est-ce que je dois me former? Donc, moi, j'ai fait le choix consciemment de ne pas me former parce qu'à ce moment-là, c'était ça qui était juste pour moi. Du coup, toi qui t'es formé, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces personnes qui se posent cette question? Ça apporte quoi une formation en coaching?
Alors c'est une question qu'on me pose aussi souvent, donc je dirais il y a plein d'axes dans cette question-là. La première c'est si toi tu ressens que tu as envie de te former, vas-y, parce que tu as beau avoir toute la posture que tu veux et voilà, avoir cette intuition de comment accompagner l'autre, bah, tu vas forcément apprendre des choses en coaching, en école de coaching en tout cas, approfondir des choses peut-être que tu as déjà explorées, aller un peu plus loin. Donc ça déjà, c'est super cool. Si tu en as envie, vas-y. Est-ce que tu dois le faire? Non, parce que j'aime pas quand on se dit je dois ou il faut. Donc non, tu ne dois pas et non, il ne faut pas. Je dirais que c'est vraiment libre à chacun de se dire est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que je ressens que j'en ai besoin ou pas? Personnellement, je parle de mes clients, des confrères me demandent quelle formation j'ai faite, quel diplôme j'ai eu, mais mes clients ne m'ont jamais posé la question. Voilà. Donc, je pense que ça ne changera rien pour tes clients. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là. J'ai une personne qui m'a offert une phrase il n'y a pas longtemps que je trouvais géniale. C'est si tu en sais plus que moi sur le sujet, tu es compétent. Et du coup, pour moi, c'est ça, l'accompagnement de nos clients. Si vous êtes plus avancé que vos clients dans la connaissance, que ce soit des neurosciences, de la psychologie, du développement perso, de je ne sais quoi, en fait, vous avez déjà une expertise à partager. Après, voilà, moi, j'avais vraiment ce besoin d'aller dans la formation, j'avais envie de le faire. Et je trouve que le bonus dans tout ça, que j'avais pas du tout anticipé au départ, c'est que, en fait, quand tu fais une formation de coach, bah, tu prends 6 mois de coaching intensif, puisque tes collègues s'entraînent sur toi. Donc, tu te fais coacher par 5, 6, 10 collègues en fonction du nombre de personnes dans ta promo. Et du coup, ça bouge beaucoup, beaucoup. Donc, c'est aussi un vrai cadeau à se faire à soi que d'ouvrir cet espace d'apprentissage et aussi de développement personnel. Parce que du coup, via les exercices que vous allez faire les uns sur les autres, tu vas déjà te développer et avancer sur ton projet, sur ta posture, sur ta confiance en toi, etc.
Et donc, comment tu as fait ce passage entre salarié d'une très grande entreprise nationale et finalement coach à ton compte? Ça s'est passé comment? C'est quoi les étapes?
Alors, je suis pas que coach à mon compte, c'est important. Non, je suis sûre qu'on va en discuter après, mais je pense que c'est important de le préciser parce que si j'étais que coach à mon compte, je pense que je n'en vivrais pas. Donc, c'est important de préciser et pour moi, ça fait partie des clés aussi à avoir quand on veut se diriger vers le coaching, c'est de savoir qu'on ne pourra peut-être pas faire tout son chiffre là-dessus. Il y en a qui y arrivent, mais ce n'est pas forcément le modèle économique le plus facile à tenir, on va dire. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour faire la bascule? Donc, il y a cette formation de coaching que je fais en parallèle de mon travail. Je prends ce nouveau job à Saint-Nazaire où, en fait, j'étais nourrie par l'entreprise libérée. Donc, entreprise libérée, je fais un petit lien vers Isaac Goetz. Si ça vous intéresse, allez creuser. Isaac Goetz, il a écrit plein plein de trucs.
Frédéric
Notamment, là, il a.
Lapine.
Ouais, voilà. Donc, il y a différents auteurs, mais déjà en commençant par Isaac Goetz, normalement, ça rayonne après sur tout le reste. Tout ce qui est autour voilà, de l'entreprise libérée, du manager, enfin, du leader libérateur. De l'entreprise altruiste aussi, donc plein plein de choses là. Et en fait, quand j'étais à Toulouse, tout ce sujet me nourrissait de manière très intellectuelle et très théorique. Donc j'ai eu la chance de participer à une conférence d'Isaac Goetz, j'ai lu les bouquins, j'ai creusé le sujet, j'ai fait tout plein de recherches. Donc en théorie, je savais exactement comment ça marchait, mais j'avais pas de zone d'expérimentation disponible dans mon environnement à Toulouse. En tout cas, c'était pas favorable à ça. Et donc, le fait de pouvoir l'expérimenter à Saint-Nazaire, ben, ça m'a aussi vachement motivée de me dire, ben, voilà, on va voir comment ça s'applique en vrai avec des vrais gens dans un vrai contexte professionnel où il y a besoin de performance, etc. On a fait plein de choses sur un an et demi que j'ai passé à Saint-Nazaire. On a vraiment fait plein de trucs et c'était hyper enrichissant de travailler ces sujets-là, de voir aussi le décalage entre les 20 ans d'expérience du manager avec qui j'étais et finalement, les attendus de ce type de démarche qui ne sont pas du tout en phase avec ce qu'il a vécu depuis 20 ans. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi aussi. Parce qu'en fait, quand on libère l'entreprise, ça veut dire qu'on va prendre en considération chaque humain dans l'entreprise. On va prendre en considération ses envies, ses besoins et on va essayer au mieux de faire en sorte que ben, la répartition des tâches se fasse sur des choses que les gens aiment faire. Où ils trouvent du sens, etc. Et en fait, la manière dont ça s'est passé, j'ai commencé à entamer des discussions bah, avec Gérald Mignon et avec d'autres managers dans l'usine de Saint-Nazaire pour finalement à nouveau créer le job que je voulais. Et donc me dire, ben voilà, aujourd'hui, le job que je veux, c'est faire du coaching. J'adore animer des groupes, j'adore faciliter des groupes, les faire travailler sur des sujets, trouver des solutions ensemble. Je suis hyper à l'aise quand je le fais et on me reconnaît pour ça. Et donc, ces deux éléments étaient vraiment essentiels pour moi, le coaching et la facilitation en intelligence collective. Et donc, je voulais un job sur mesure là-dessus. Et je suis allée le demander. Et donc, j'ai dit, voilà, moi, ce que j'aimerais faire, mon prochain job, je voudrais que ce soit ça, j'aimerais adresser tel et tel sujet. Ce sont des sujets qui sont plutôt externalisés chez Airbus. Il y a des équipes internes qui s'en occupent, bien sûr, mais ils ont aussi beaucoup de prestataires extérieurs. Et donc, il y a eu une thématique de ben, à qui est-ce qu'on va te raccrocher? En plus, Saint-Nazaire, c'est un peu externalisé par rapport au siège qui est à Toulouse. Est-ce qu'il faut qu'on te raccroche au siège? J'ai été déléguée à Saint-Nazaire. Est-ce que c'est l'usine qui doit te payer? Est-ce que c'est RH? Est-ce que c'est plutôt Lean? Enfin, voilà, où est-ce qu'on va te mettre? Qui va être ton responsable? Donc, il y avait tout un tas de questionnements autour de ça. Et c'était assez compliqué. Enfin, il y avait beaucoup d'interlocuteurs. C'était un peu un travail de fourmi. Et en fait, donc je suis partie en vacances. Je suis partie au Brésil. Je suis revenue du Brésil. Il y a eu quand même un vrai déclic là-dessus. C'est que je suis revenue très triste du Brésil parce que j'avais pas envie de partir, que j'avais envie de rester là-bas et que, il y avait un peu la petite voix en moi qui me disait, bah, de toute façon, lundi, il faut que tu sois au bureau. Donc, il faut que tu rentres. Et donc là, déjà, il y a un gros truc qui s'est ouvert pour moi de se dire, mais est-ce que je pourrais pas, la prochaine fois que je pars au Brésil, y rester et que mon bureau, ça devienne la plage de Copacabana. Pourquoi pas? Donc, il y a eu un peu ce truc de est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de continuer à travailler? Je suis rentrée, j'ai vu mon chef direct, qu'on se voyait toutes les semaines, on avait des points toutes les semaines, et puis on se voit, et il me dit, écoute, je sais que ça patauge un peu sur les discussions pour ton futur job. On a pensé à toi sur un autre job qui est la responsable de la communication sur l'usine. Du coup, trop cool. Enfin, responsable de la communication, j'en avais fait jusque-là. Je me dis génial, on me fait confiance sur un truc sur lequel je suis pas du tout formée. On m'ouvre la possibilité d'avoir quelques personnes avec qui bosser, peut-être quelques stagiaires, apprentis, voilà. Donc un peu de management, de la com, ouais, c'est cool. Et puis, ben, je reste un peu sur cette discussion avec mon chef. Je pars en week-end. Je tombe sur un livre qui était là depuis longtemps, mais qui attendait le bon moment pour m'appeler, qui est La méthode Ikigai. Je feuillette la méthode Ikigai. Et en fait, en feuilletant le livre et en faisant un petit peu les exercices, je me dis, mais tu es en train d'accepter un rôle à la com, parce qu'en vrai, ça a l'air super cool. Mais en fait, ce que tu voulais vraiment, c'est faire du coaching et de la facilitation. Donc, je suis revenue voir mon chef la semaine d'après. Il me dit, oh, j'ai réfléchi ce poste à la com, ce serait vraiment génial. Et je lui dis, bah, écoute, chef, j'ai réfléchi aussi et je pense que je vais prendre un congé sabbatique et que je vais lancer mon entreprise et que voilà, je tente le coup. Donc, j'ai pris l'option congé sabbatique pour me lancer et pour démarrer mon activité. Peut-être que je peux faire une petite aparté là-dessus aussi, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions par rapport à ça, sur le comment je suis partie, tout ça. Donc, moi, je suis partie en congé sabbatique. La raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là, c'est que j'avais besoin de me sentir soutenue par mon entourage. Et l'une des plus importantes pom-pom girls dans mon entourage, c'est mon papa. Et en fait, quand on annonce à son papa qu'on va quitter un CDI en or chez Airbus avec voilà, des perspectives de carrière qui étaient quand même chouettes, bah, c'est un peu compliqué à recevoir pour lui aussi. Et donc, je voulais pas rentrer en opposition ou en confrontation avec lui. Et je me suis dit, bah, finalement, le congé sabbatique, ça met tout le monde d'accord. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ça va marcher et j'ai envie d'essayer, j'ai envie de pas le regretter, de pas me dire, mince, si tu avais su, si tu avais pu, tu l'aurais fait. Donc, je le tente. Et en même temps, j'ai un filet de sécurité. Donc j'avais un an et demi de congé sabbatique sur le premier congé sabbatique. Et je me dis, bah, j'ai un an et demi pour faire en sorte que ça fonctionne. Et si dans un an et demi, je me rends compte que ça ne fonctionne pas, eh ben, j'ai mon billet retour, je reviens dans l'entreprise. Et d'ailleurs, mes chefs m'avaient dit, on t'accueillera avec grand plaisir, on sera ravis de te voir revenir, même s'ils n'y croyaient pas trop. Là, ils ne se sont pas trompés. Et donc, ben, 6 mois après m'être lancée donc en congé sabbatique en tant qu'auto-entrepreneur, ben, vu que ça fonctionnait, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle et je me suis vraiment établie en tant que chef d'entreprise.
Ok. Donc, c'est quoi les premières prestations que tu as vendues avant d'avoir validé ton concept et de passer en entreprise?
Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, les principales prestations que j'ai vendues, c'était des interventions en entreprise sur de la facilitation de groupe. Donc, faire travailler des collectifs ensemble pour livrer des solutions co-construites, co-designées par les différents membres de l'équipe.
Ok, on va faire un petit zoom sur ça. C'est un jargon, un vocabulaire que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Facilitation, co-design, co-création, co-dev, intelligence collective, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Alors pour moi, le co, c'est le collectif. Voilà. Ouais. Donc c'est quand on parle de co-dev, c'est comment on développe en collectif, comment le collectif peut développer quelque chose. Co-design, ben, on définit quelque chose ensemble. Co-création, on crée quelque chose ensemble. Et
Ça
collaboration.
Ressemble à quoi concrètement? Parce que, par exemple, dans mon univers, co-création, c'est quelque chose de spirituel. Ça
OK.
se matérialise comment chez Airbus?
Alors, c'est certainement bien moins spirituel que dans ton univers. La co-création, en fait, si je dissèque un peu un atelier que je pourrais faire en entreprise, donc je discute avec un manager en général ou une équipe rapprochée autour du manager et ils vont m'expliquer voilà, où est-ce qu'ils en sont dans l'équipe, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur challenge à venir et a priori, s'ils me font venir, c'est qu'ils ont envie de se réunir, donc pour quelles raisons ils veulent se réunir et qu'est-ce qu'ils espèrent en sortir. À partir de là, on définit ben, qu'est-ce qui va se passer dans cette journée, demi-journée, dans ces 2 jours de réunion où on va se retrouver tous ensemble. Et si je prends un cas assez classique, en général, c'est on a des objectifs, on a besoin ben, de faire en sorte que tout le monde les comprenne déjà. Donc, partir des objectifs qui existent et se dire est-ce qu'on a tous bien compris ce qu'il y a dans ces objectifs? Et donc, prendre un temps voilà, de détailler ces objectifs-là et d'être sûr que tout le monde se les comprenne et se les approprie. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va aller ben, définir ensemble, en sous-groupe ou en groupe complet en fonction du nombre de participants, pour se dire ben, comment on atteint ces objectifs. Par exemple, voilà, j'ai un objectif à 3 ans d'améliorer les performances énergétiques de l'avion, enfin au niveau CO2 écologique pardon de l'avion, au niveau CO2 ou autre. Ok, donc j'ai un objectif de réduire de 25% dans 3 ans. Concrètement, quelles sont les actions qu'on va mettre en place dans l'année qui arrive pour atteindre ces objectifs-là? Et donc plutôt que de faire cette réflexion qui pourrait tout à fait être faite en duo entre le manager et moi, et on définit, voilà le plan d'action, réfléchis à qui tu donnes quelle action dans ton équipe. Ça, c'est plutôt le management old school. Donc, c'était comme ça que ça se passait avant et ça marchait a priori pas trop mal. On a tous évolué, on a tous des attentes un peu différentes et aujourd'hui, on a envie d'être acteur de ce qu'on fait, de se sentir impliqué. Et c'est là tous les principes de l'intelligence collective, de la facilitation, de l'entreprise libérée finalement, c'est de se dire comment est-ce que je rends les gens acteurs de leur parcours en entreprise, comment je fais en sorte qu'ils s'approprient les actions qu'ils vont mener et qu'ils comprennent pour quelles raisons ils font ces actions-là. Et donc en sortie d'un atelier comme ça, d'une journée, on peut arriver, il y a plein de formats différents et plein de sujets différents, mais sur un sujet comme celui-là, on va arriver avec un plan d'action où chacun s'est positionné sur les actions qu'il a envie de mener, en s'engageant sur une certaine manière de le suivre, de le reporter, etc. Et du coup, c'est plus simple d'aider quelqu'un à avancer sur les actions qu'il a définies pour lui-même plutôt que de forcer quelqu'un à avancer sur les actions qu'il a définies pour lui.
Ouais, donc c'est bon, ça c'est les principes que tu as pris dans l'entreprise libérée, c'est impliquer les personnes dès le début du processus pour qu'ils soient motivés eux-mêmes à faire les actions. Ok.
Et une phrase qui peut résumer ça, et qui est assez musicale, donc elle est pas mal, c'est tu m'impliques, je m'applique, tu m'imposes, je m'oppose. Et pour moi, ça résume vraiment ce que je fais en entreprise avec les clients avec qui je travaille.
Ok, donc ça représente encore aujourd'hui une grosse partie de tes activités, c'est-à-dire tu fais du B2B, comme on dit dans le jargon, business to business, tu vends des services aux entreprises. Et puis, nous on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi, et tu avais à ce moment-là l'envie de commencer à développer l'aspect B2C, donc business to customer, c'est-à-dire de t'adresser plus à des particuliers et un peu moins à des grandes entreprises. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu as voulu diversifier comme ça?
Alors, je pense que j'ai voulu diversifier parce que je suis une personne qui aime la diversité, j'aime être curieuse de plein de sujets et je pense que c'était déjà le cas quand j'étais en entreprise et que j'étais salariée et c'est pas forcément comme ça qu'on imagine un poste de salarié chez Airbus, mais en tout cas, je faisais déjà plein de choses différentes dans mon job Et c'était évidemment quelque chose que je voulais intégrer dans ma création d'entreprise, de me dire oui, je fais plein de choses, je fais plein de choses dans mon job, plein de choses différentes. Du coup, la question du pourquoi se diriger vers les particuliers, alors je crois qu'il y a une part de moi qui avait envie de voir autre chose. Moi, j'ai passé du coup plus ou moins 10 ans dans l'industrie et je crois qu'il y avait une volonté un peu identitaire de se dire je sors de l'entreprise, du coup je m'affirme sur d'autres secteurs et sur d'autres sujets. Donc je crois que ça en faisait partie. Et puis voilà, oui, une envie d'avoir différents profils à accompagner. J'adore accompagner les entreprises. Je prends beaucoup de plaisir à être auprès des entreprises en collectif ou en individuel, mais je prends aussi beaucoup de plaisir à accompagner une femme sur la manière dont elle va communiquer au sein de sa famille ou gérer les principes d'éducation positive qu'elle veut mettre en place avec ses enfants. Et puis, j'aime tout autant accompagner un créateur d'entreprise qui a envie d'être soutenu pour faire ses premiers pas dans le bain de l'entrepreneuriat. Donc, c'est voilà, des profils qui m'intéressent et que j'aime accompagner.
Ok, donc quand tu parles aux individus, aux entrepreneurs qui démarrent, là, tu es en posture de coach. Quand tu es avec les entreprises, est-ce que tu es en posture de coach ou tu appelles ça autrement?
Alors, je crois que ma posture, elle est tout le temps un peu mixée entre tout, parce que pareil, sur l'accompagnement d'entrepreneurs, on pourrait dire du coaching, mais il y a aussi du mentorat, il y a un peu les deux. Donc, la différence entre les deux, parce que c'est peut-être pas clair non plus pour tout le monde. Pour moi, un coach, c'est quand je suis coach, quand je suis dans la posture de coach, je vais questionner la personne en face de moi pour faire émerger d'elle sa propre réponse. Et quand je suis en posture de mentor, et ben en fait, je vais nourrir la personne avec des exemples et avec des expériences que je connais et qui vont lui permettre de gagner du temps sur des sujets sur lesquels elle n'aura pas besoin d'aller chercher sur tout le web pour trouver ce qu'elle a à trouver. Donc déjà, sur l'accompagnement entrepreneur, je suis toujours entre les deux, entre le coaching et le mentorat. Sur l'accompagnement, qui pourrait être plus en coaching de vie, je dirais que là, je suis vraiment dans une posture coach. Là, c'est pas du mentorat parce que j'ai mon expérience de vie, mais pour autant, ça fait pas de moi un mentor de vie. Donc, c'est plus voilà du coaching où vraiment je vais aider la personne à trouver ses propres solutions. Et quand je suis en entreprise, je suis un peu de tout aussi, hein. Je suis un peu coach, un peu facilitatrice, dans le sens où parfois mon job, c'est aussi de reformuler ce que différents interlocuteurs Quand je dis j'ai le manager avec parfois son équipe rapprochée, des fois en fait je passe 1 heure à reformuler ce que les uns et les autres se disent pour être sûr qu'ils se comprennent bien. Parce que quand ils arrivent, ils sont tous d'accord, mais en fait quand ils commencent à parler, on se rend compte qu'ils ne le sont pas. Donc ça, c'est pour moi de la facilitation. Je vais reformuler, je vais venir revalider, on va redéfinir et rediscuter de certains éléments. Il y a des moments où je me positionne en posture de coach, il y a des moments où je me positionne en posture de formatrice aussi, parce que des fois j'apporte voilà du contenu en termes de formation. Donc c'est un peu un mix de tout ça.
Ok, super. On a parlé donc de ton passé. Bon, ça fait une grosse partie de l'interview. C'est normal, c'est toute ton expérience jusqu'à présent. Là, on va parler un peu de ton présent et puis après, on finira sur tes perspectives à venir. Mais
Merci.
donc, on est en 2021. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi ton quotidien? Donc, plus de coach à ton compte, vraiment, si on pouvait parler comme ça éventuellement. Maintenant, tu es plutôt dans un stade de chef d'entreprise. Stade dans lequel je t'ai vu te transformer dans ces derniers mois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette étape?
Je pense que l'étape, elle est. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse sur. Une fois que j'ai eu ma rupture conventionnelle, j'ai été au chômage. Et donc, j'ai eu 2 ans de chômage qui se terminent là actuellement. On est en novembre 2021. Et du coup, il y a quelques jours, mon chômage s'est terminé. Donc, je pense que c'est aussi un contexte, hein, qui permet de passer certains paliers. Et je fais la parenthèse volontairement pour donner le message que oui, on peut créer son entreprise et percevoir des indemnités parce que c'est pas une magouille, c'est pas une faille à exploiter, c'est un vrai truc légal qu'on a le droit de faire et on a le droit d'être accompagné par Pôle emploi pour créer son entreprise. Ça s'est posé là pour ceux que ça peut intéresser. Et donc du coup, bah là, j'arrive à la fin de mes droits à Pôle emploi, donc ça veut dire qu'il faut que je me paye, qu'il faut que je sorte un salaire de cette activité. Donc, ben, à tout ce pot d'enthousiasme, de choses qui me plaisent, de choses que j'ai envie de faire, ben, se rajoute une couche qui est la réalité économique. Et donc, à un moment donné, je papillonne, je teste des trucs, j'expérimente, on passe à là maintenant, j'ai besoin d'un système qui tourne. Et donc, c'est en ça que oui, je passe de coach à mon compte à chef d'entreprise, puisque la réalité économique aussi me pousse à ça. Et puis, il y a d'autres dimensions dans ça. On peut mentionner rapidement Elodie et Karine, qui sont donc une apprentie, une stagiaire, qui sont avec moi, mes petites fées de Derwin and Shine, dont je suis ravie.
On leur fait un petit coucou.
On leur fait un petit coucou. Voilà, donc, qui ont démarré avec moi en septembre, enfin, en septembre pour Elodie, en octobre pour Karine. Et donc, du coup, oui, une autre dimension d'entreprise aussi. Gérer plusieurs personnes, puis être toute seule derrière mon ordi ou derrière mon client, à faire des choses. Et donc, forcément, ça demande des compétences aussi complémentaires, que celles d'être freelance, finalement.
C'est quoi les compétences du coup d'une chef d'entreprise qu'on n'a pas quand on travaille toute seule?
Pour moi, c'est sur la partie structuration, organisation, gestion d'équipe. Le relationnel, on l'a quand on travaille tout seul, le fait de prendre en compte l'humain, on l'a aussi. Mais se dire que je peux plus avoir des morceaux de notes dans ma tête, des morceaux de notes dans mon bullet journal et des morceaux de notes quelque part sur un drive, il faut que j'arrive à centraliser des infos, à mettre mon cerveau sur un espace partagé. Pour qu'on puisse collaborer, à formaliser parfois certains process que j'avais pas formalisés avant parce que je les avais dans la tête. Donc se dire si c'est plus moi qui le fais, il faut que je pose ce que j'en ai appris depuis un an et demi pour éviter à la personne qui démarre là de faire tout le chemin que j'ai pu faire depuis un an et demi. Donc oui, à formaliser un certain nombre de choses. Ça, c'est clair que c'est un peu le challenge, voilà.
Donc c'est un travail qu'on a fait notamment là sur ces derniers mois. Notamment, on a parlé de bien organiser, structurer notre espace Google Drive. On a migré sur Notion pour ceux qui connaissent pas encore. C'est un peu l'application remplaçante de Evernote, Dropbox, Trello et tout ce qu'on pouvait avoir avant. Cool. Il y a les réunions aussi hebdomadaires, tous les feedbacks aussi que tu fais chaque semaine avec Karine et avec Elodie
Ouais.
individuellement. Alors moi, j'ai une posture aussi assez privilégiée, puisque je vois, j'observe tout ça de très près, parce que je ne suis pas dedans, mais presque. J'ai à moitié un pied dans ton entreprise et toi un pied dans la mienne. Et puis, il y a eu ce séminaire d'entreprise, du coup, organisé il y a un mois. Tu veux nous en dire un petit mot?
Je ne vais pas forcément détailler le séminaire, mais du coup, ça m'appelle une autre réflexion qui est c'est quoi les compétences qu'on a besoin en tant que chef d'entreprise et qu'on a besoin d'approfondir par rapport à la posture où je suis solopreneur ou freelance. Je dirais, c'est aussi quelle est ta vision de l'entreprise et quelle vision tu as envie que les salariés ou les collaborateurs qui intègrent ton entreprise vivent finalement. Comment cette vision, elle se traduit en réalité au quotidien? Moi, j'ai une vision du travail qui m'est propre, en tout cas, c'est ce que je pense. J'aime le fait qu'on travaille par plaisir, qu'on fasse les activités quand on le souhaite et qu'on écoute son rythme biologique, qu'on écoute tout un tas de choses et qu'on puisse travailler d'où on veut, travailler comme on veut. Et du coup, j'avais toujours ce truc en moi, et c'est un peu l'histoire de j'apprends en théorie l'entreprise libérée, et j'arrive à Saint-Nazaire et je vois comment ça s'applique. En théorie, jusqu'à présent, j'avais une vision de comment moi j'imagine l'entreprise idéale pour les collaborateurs. Et finalement, aujourd'hui, je suis en train de créer cette vision dans la matière avec Karine et Elodie. Et ce séminaire est une des briques de ça, de se dire on peut travailler à distance. Et évidemment, c'est important de créer du lien. Ok, on se fait un séminaire pendant une semaine et on va passer une semaine ensemble. Donc, au-delà du séminaire, on a vécu ensemble pendant une semaine puisqu'on était dans une maison où chacune avait sa chambre, mais où on avait tous les espaces communs. Donc, c'était une petite coloc pendant toute la semaine. Et en fin de compte, ça vient confirmer tout ce que je pense, c'est qu'on peut travailler à distance en ayant un lien super fort et super authentique avec les personnes. On peut créer des espaces présentiels où on se retrouve et où on passe du temps ensemble. Enfin voilà, ça, c'est venu vraiment matérialiser tout plein de choses que j'avais en tête sur ma vision d'une entreprise idéale. Et je crois que ça fait partie aussi de cette bascule vers le chef d'entreprise, de se dire c'est quoi ma vision et comment je vais la retranscrire dans la matière pour les gens qui vont venir travailler avec moi.
Et oui, ça te prend combien de temps, ça t'a demandé combien d'efforts de conceptualiser, de matérialiser, enfin, de la matérialiser, c'est en cours avec l'aide d'Élodie et de Karine, mais d'être capable de la verbaliser déjà?
Alors, je saurais pas dire parce que c'est difficile d'isoler le processus, mais ouais, c'est ça. Mais c'est plus un peu je sais pas, je crois qu'on appelle ça les haha moments, le truc où tu dis ah, mais c'est ça en fait, c'est ça que je voulais dire et je savais pas comment le dire. Ben, ça s'est passé pendant le séminaire, typiquement. Quand on était ensemble dans le séminaire, je me suis dit, mais en fait, là, on est en train de vivre ce que j'imaginais possible, mais que j'avais pas testé. Donc, je pouvais pas savoir si ça l'était vraiment. Et là, je me rends compte que oui, c'est possible et que oui, les entreprises pourraient fonctionner comme ça.
Donc, sur ces dernières semaines, tu as participé à un rallye qui s'appelle La Rose des Sables, grâce notamment au travail de Karine et Elodie, qu'on va encore saluer. Vous avez ensemble publié un podcast d'interview que tu avais réalisé pendant ce trophée. Où est-ce qu'on retrouve ce podcast? Où est-ce qu'on peut t'écouter?
Alors, le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, voilà. Donc, normalement, il est assez facile à trouver. Il s'appelle Au cœur des roses. Donc, voilà, cherchez sur une plateforme et vous le trouverez. Et puis, ce podcast, bah, c'est aussi une manière de matérialiser ma vision de l'entreprise. On l'a fait, alors, c'était pas choisi pour le sujet du Rose des Sables, mais en tout cas, on l'a fait en version bac à sable. Où on s'est dit, on le teste, on a une opportunité d'avoir des choses à partager. Le podcast, ça fait longtemps que j'y pense, donc bah, c'était l'occasion de le tester. Et au final, c'était un test pour un podcast à venir qui est en cours là, de maturation, qui sera plutôt autour de l'entreprise, du management et de donner des autorisations pour travailler autrement en entreprise. Donc ça, il n'a pas encore de nom, tout ça, mais il viendra très vite début 2022 sur les plateformes d'écoute aussi.
Ok, donc où est-ce qu'on peut aller te suivre pour être au courant de la sortie de ce prochain podcast? Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver de façon générale si on a envie d'en savoir un peu plus sur toi?
Bah, le plus simple, c'est LinkedIn. Alizée Chen sur LinkedIn.
Ok, génial. Merci Alizée. J'espère que ça aura donné plein d'idées à des personnes qui hésitent encore un petit peu à se lancer. On te suit sur LinkedIn où tu es très active et puis très bientôt sur ton podcast.
Je fais juste une parenthèse d'un truc que j'ai oublié de dire, mais qui me paraît important quand tu dis s'il y a des personnes. Juste aujourd'hui, un de mes clients principaux est Airbus. Donc, je voulais juste me permettre de préciser ça. On peut aussi quitter un employeur pour le transformer en client. C'est pas parce qu'on quitte un employeur qu'on est obligé de se fâcher. Donc, moi, je suis très contente de retourner travailler chez Airbus régulièrement, de revoir d'anciens collègues, de les accompagner dans leur transformation. Et voilà, si ça peut aussi ouvrir une option aux personnes qui écoutent, on n'est pas obligé de se fâcher quand on quitte l'entreprise et c'est aussi possible de continuer la relation sous une autre forme. Merci beaucoup, Lucie, pour cette interview.
Merci Élisée, à très
Trop
vite.
cool. Bye.
Ciao.